Donc, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de présenter des projets ici, en partie à des gens qui me connaissent, mais aussi surtout à des gens que je côtoie en partie assez régulièrement, mais avec qui on n'a pas forcément le temps de s'échanger, de se montrer ce qu'on fait. Et quand on est dans un univers digital, et ben, ce qu'on fait, ben, dès que l'ordinateur est fermé, ça ne se voit pas. Et je suis content d'avoir cette occasion de présenter des choses. La structure de cette présentation, je vais faire un peu une sorte de méga présentation qui contiendra vraiment beaucoup de projets passés, présents, futurs, qui va vous montrer un peu différents aspects de mon travail, qui, vous le verrez, et des fois se passe dans différentes dimensions ou dans différents univers qui ne se croisent pas forcément. Et je pense que c'est un peu la première présentation où je vais essayer de cumuler autant d'univers différents. Donc, l'univers dans lequel vous me connaissez pour la plupart, c'est mon activité actuellement à la HEAD, qui est une partie de mon travail professionnel, qui consiste à faire partie de l'équipe glorieuse de l'InfoLab, qui vient d'ailleurs de s'agrandir cette semaine d'une personne, Caroline, que vous croiserez, qui sera tous les matins là-bas. Et on présente évidemment plus Stéphane Taillandier. Et bref, vous connaissez cette équipe très efficace, qui fait fonctionner tout ce qui est logiciel et informatique dans l'école. Mis à part ça, je suis passé dans cette école sous différentes formes, différentes incarnations. Donc j'ai une pratique artistique que j'ai acquise en partie auprès de Hervé, en tripatouillant les logiciels à la fin des années 90, début 2000, et en faisant des projets qui s'intéressent volontiers à des univers semi-virtuels, semi-provenant d'autres médias, et donc mélangeant par exemple une vue d'une ville futuriste créé par un film de science-fiction des années 70, et la même vision des mêmes espaces urbains routiers créés par l'œil mécanique d'un véhicule doté d'une caméra à 8 yeux. Et donc ça, c'était un travail qui s'est décliné sous différentes formes de vidéos, d'installations montrées dans différents espaces. Et donc un voyage imaginaire dans une ville que j'ai jamais visitée physiquement, et à travers des médiums qui ajoutent des paysages visuels et des paysages qu'on peut explorer, mais qui en même temps nous prive quelque part enlève une partie de notre réalité, nous empêche quelque part d'aller physiquement dans un endroit, parce que de toute façon on l'a déjà vu en image. Donc ça, c'est une réactualisation un peu de ce projet, c'est une suite qui a eu lieu cette année pendant le NIF à Neuchâtel, à l'invitation de la HEARC et en collaboration avec Swan Temen, que vous connaissez probablement aussi, qui est aussi dans cette école, s'occupe aussi de multimédia. Donc ça, c'était une collaboration et un exemple de travail multimédia, installation, un peu ludique, présenté dans un contexte artistique. Il y a d'autres aspects de mon travail hors de la HEAD et maintenant aussi en partie à la HEAD, qui consiste à faire du développement, et notamment du développement web avec une plateforme que j'aime beaucoup, WordPress, qui est un système de publication, de publishing, de future publishing, je pense. Parmi ceux d'entre vous qui ont fait de l'art numérique dans les années 90, on avait une divinité qui était installée quelque part dans le lointain, qui s'appelait John Maeda, et qu'on a perdu de vue depuis longtemps parce qu'il est parti, il est devenu directeur d'une école, et ensuite il est parti dans le domaine de l'investissement et des startups. Mais en fait, il a rejoint en 2016 WordPress. Il a été embauché par Automatic, une entreprise qui fait beaucoup dans WordPress, et où il a maintenant le rôle de responsable du Computational Design and Inclusion. Dans l'univers de WordPress, certains de mes projets, ce sont la création d'extensions, la création de fonctionnalités. Ça, c'est un outil que j'ai publié qui permet de gérer des agendas, de gérer des calendriers, utilisés par exemple par des sites dans l'école, ceux de l'option construction ou de l'option information fiction. Et une activité importante que j'ai dans WordPress, c'est surtout la partie communauté, animation d'événements, organisation d'événements et circulation d'informations dans la communauté suisse romande. Ça, c'est un schéma de différentes parties qui font un écosystème de logiciels libres. Et donc, il y a des parties plus techniques, il y a des parties plus développement, il y a des parties entreprises et il y a des parties community, donc notamment l'organisation de conférences, qui sont organisés très organiquement par des assemblages très très hétéroclites de personnalités. Les premières conférences WordPress où j'étais, c'était vers 2012-2013 à Paris. J'ai co-organisé ou j'ai aidé dans l'organisation de différents événements qui ont eu lieu en Suisse, à Zurich en 2014, à Genève, à Berne et récemment à Lausanne. Donc c'est une manière de connaître, d'appréhender le code, les plateformes de publication via des rencontres avec des personnes et via les innombrables parcours qui amènent des gens à consacrer du temps de manière des fois un peu folle et irrationnelle à ces systèmes de publication. Une facette de la communauté WordPress, c'est ce qu'on appelle les meetups. Donc ce sont des mini-conférences très grassroots, très do it yourself, qui sont organisées par n'importe qui et qui ont commencé à Genève en 2012 suite à l'arrivée par hasard à Genève d'une employée d'automatique qui débarquait des États-Unis et qui cherchait à rencontrer des gens WordPress et qui a lancé le mouvement que j'ai ensuite repris pendant un certain temps en organisant régulièrement donc des rencontres dans des restos, ensuite dans des espaces de coworking, ensuite en partie dans des bâtiments gracieusement mis à disposition par la HED, et où des gens de Genève ou d'ailleurs présentaient des aspects particuliers de comment publier avec la plateforme WordPress, comment résoudre des problèmes. Et donc, mis à part le fait d'apprendre comment fonctionne cette partie importante du web, qui fait tourner une proportion assez hallucinante de l'Internet actuellement d'ailleurs, et mis à part les aspects humains et rencontres, il y a aussi l'aspect du logiciel et de la licence. Donc WordPress est un des grands exemples de projets qui sont sous des licences libres, qui ont réussi, qui ont révolutionné leur secteur grâce aux capacités de ces licences. Et donc, c'est une des choses qui m'ont fait considérer ces licences libres et open source comme quelque chose de vraiment important. Encore une autre activité qui se mêle à tout ça, c'est depuis 3 ans une activité d'enseignement dans une autre école que la HED, dans une autre ville, donc à Lausanne, où j'enseigne l'art du développement front-end et de la conception de sites internet à des jeunes élèves apprentis CFC qui font un CFC de graphisme dans cette école, où d'autres personnes d'ailleurs de la HED enseignent aussi. On peut y croiser Anaïs, Jordan. Et donc juste un petit aperçu d'activités pédagogiques que j'ai pu mettre en place. Donc c'est de la réalisation de projets qui permettent d'expérimenter les technologies web. Par exemple, développer un site qui traduit en version web les Oblique Strategies, ce très fameux projet jeu de cartes, outil créatif, créé dans les années 70 par Brian Eno.
Et Peter Schmidt.
Elle a oublié son nom. Donc décliné à la fois sous la forme d'un jeu de cartes, mais un peu refait avec d'autres phrases destinées davantage à des artistes plasticiens et graphistes et des musiciens, et dans une version web. Un autre projet récemment mis en place dans ce cadre, c'est un site pour collecter des briefs, des exercices, des assignments dans le domaine du graphisme dans le sens assez large, tendance web design et interactivité assez importante, où je collecte donc mes propres des exercices que je conçois pour des élèves, mais aussi des exercices trouvés dans des blogs, sur des articles Medium où telle ou telle start-up décrit ce qu'ils ont fait à l'interne pour apprendre une nouvelle librairie React ou un nouvel outil, ou des projets historiques comme un workshop donné par Rosemary Tissi, trouvé dans une interview de Louise Paradis dans le cadre de sa grande archive sur le magazine de design suisse Typographie chez Donat Splatter. Un autre exercice que j'ai pu enfin faire, que je souhaitais faire depuis assez longtemps, c'était de faire un vrai workshop Wikipédia avec des élèves en les ayant à disposition pendant quelques jours et en les faisant travailler sur un sujet intéressant. L'occasion s'est présentée de faire l'article Wikipédia de l'institution, mais évidemment élargi en fait à plein d'aspects de l'histoire du graphisme et de la typographie en Suisse romande, donc sous la forme d'un workshop co-dirigé avec une autre experte de la publication hybride, Lorraine Fourter. Je ne sais pas si elle a mis les pieds déjà dans cette école, mais c'est une personne ressource. Demandez à Juan si vous voulez son contact. Et donc, un résultat assez intéressant, c'était par exemple la réalisation de portraits pour beaucoup de figures du graphisme suisse, dont il n'existe pas de photographie dans le domaine public ou publié sous une licence libre, parce que ces licences n'existaient tout simplement pas pendant leur vivant, et parce que c'est une histoire trop récente pour que ça rentre dans le domaine public. Et donc, c'est une manière de permettre à des élèves très, très facilement de contribuer des choses vraiment importantes à cette encyclopédie, à ce projet d'archives et de banque de données de connaissances.
Est-ce qu'elle est restée, cette image ?
Pardon ?
Elle est restée, cette image, ou comment elle était là ?
Oui, elle est restée, et je pense que Enfin, quand on travaille sur Wikipédia, il y a toujours beaucoup de questions un peu stratégiques. Comment faire pour que nos contributions survivent et ne soient pas considérées comme non conformes au règlement de Wikipédia? Et donc, il y a eu des projets d'illustration. Donc, d'ailleurs, dans ce site Design Briefs, j'ai cité quelques projets que j'ai trouvés qui avaient été faits notamment à la Transmedia Lay il y a un certain nombre d'années, où des illustrations assez artistiques avaient été créées autour de termes de Wikipédia et qui ont été balayées ensuite par les administrateurs qui les trouvaient un peu trop artistiques. Là, je pense que c'est une stratégie qui est bonne, qui va permettre à ces images d'être pérennes et de rester pendant assez longtemps. En fait, la seule raison de les enlever, ce serait que quelqu'un produise une véritable photo ou bien publie des photos historiques, ce qui serait aussi une bonne chose du coup. Un autre résultat de la pratique d'enseignement, c'est la fin de cet aspect-là, c'est la mise en ligne d'un support de cours assez... il a l'air bien rangé ici, en réalité c'est assez chaotique, mais c'est un support de cours, évidemment aussi sous une licence open source, que vous pouvez donc réutiliser, adapter, utiliser pour vos propres cours. Il y a notamment des introductions à des outils collaboratifs comme Git, ou des ressources sur la typographie, notamment sur le web. Donc Grayscale Press, c'est un peu la raison pour laquelle je pense que je parle ce soir, en bonne partie. C'est le projet qui s'inscrit le plus dans la lignée du hybrid publishing, du post-digital publishing, comme on dit. Et donc, c'est un projet que j'ai lancé il y a à peu près 10 ans, pendant que je travaillais dans une entreprise d'informatique où j'avais rejoint le support technique d'un producteur de logiciels dans le domaine de l'industrie du print. Et donc, j'étais tout à coup dans un univers très, très différent d'une corporation américaine avec des clients dans le domaine de la publication. En même temps, je venais de réaliser qu'il existait ce dont on rêvait depuis longtemps, le print on demand, les technologies qui vous permettent de manière ultra rapide et ultra simple de faire imprimer à très très petit tirage des projets s'apparentant à des livres. Et donc j'ai évidemment sauté sur cette occasion. Et donc il fallait trouver un nom de maison d'édition. Donc le premier terme qui m'est venu à l'esprit, Grayscale Press, c'était lié au fait que la sortie en niveau de gris de ce logiciel posait apparemment beaucoup de problèmes dans les workflows très professionnels. Ce que j'ai toujours eu de la peine à comprendre, parce que avoir des problèmes avec de la couleur, ça peut encore le comprendre, mais avoir des problèmes parce qu'on veut sortir du noir et blanc, c'est quand même très bizarre, non? Bref. Et les premières choses que j'ai publiées, c'était des livres un peu de test, que j'avais, ou bien des articles très très longs sur lesquels j'étais tombé, comme ça arrive à tout le monde, en surfant sur le web, et que je voulais lire de manière classique sous une forme imprimée, mais qui n'existait pas. Donc par exemple, Mother Earth's Motherboard, le meilleur article jamais publié dans Wired Magazine par Neil Stephenson sur le fonctionnement physique des câbles sous-marins faisant transiter les données, publié par ce magazine en 94-95, que vous trouvez en ligne et qui fait un véritable petit bouquin quand vous l'imprimez. C'est une publication non autorisée avec comme illustration les cartes Google Maps, des emplacements GPS qui sont donnés par l'auteur dans le texte. Et donc, j'ai fait 2-3 exemplaires. Il y en a un qui se trouve dans le magasin Bookworm à Worm à Rotterdam. J'ai été contacté par un autre artiste qui a fait, en fait, de son côté, en parallèle, exactement le même projet. Il a fait une édition print on demand limitée pour lui de ce livre. Donc il y a des romans trouvés qui sont des choses que des gens ont publiées sur des blogs qui sont très très longs à lire, qui se sont avérés très intéressants. Une fois que je les ai imprimés et que je les ai lus, je me suis dit, ah oui, c'est un chef-d'œuvre de la littérature postmoderne, un hommage à Naked Lunch de William Brooks, le Report from the Desert, que je vous recommande fortement. Évidemment, je n'étais pas le seul à être tombé là-dessus. Je vous présente quelques-uns de mes projets préférés faits par des artistes dans le domaine de l'utilisation ou du détournement du print on demand. Donc, par exemple, My Life in Tweets par James Bridle, son autobiographie de 2007 à 2009, qui est donc une compilation de ses tweets qu'il a proféré pendant cette période. Et il a publié aussi le script PHP qu'il avait utilisé pour extraire ça de l'API Twitter pour en produire un PDF. Script qui fonctionne plus bien, bien sûr, parce que les API changent tous les 6 mois, c'est bien connu. Il y a eu aussi un projet il y a quelques années, Etherpress, qui vous permettait de produire ce type de livre avec votre compte Twitter. Vous deviez fournir votre nom d'utilisateur et ça générait un livre avec en plus un index des hashtags. Vous pouviez choisir le titre. Voilà quelqu'un qui a beaucoup tweeté. Ça, c'est un grand classique avec une impression en l'impression version de luxe du Clinton Emmanuel, qui est une encyclopédie, mais en fait c'est un article de Wikipédia, celui consacré à la guerre d'Irak, mais avec tout son historique des modifications.
Wow.
Avec chaque personne qui édite dans Wikipédia, vous avez accès à l'historique, donc vous pouvez aussi l'extraire, le formater, en faire un livre, et donc ça vous fait une petite encyclopédie avec toutes les révisions, avec le détail de ce qui a changé d'une version à l'autre.
Et donc on peut savoir qui a fait la modification.
Oui, ça c'est un des principes de fonctionnement de Wikipédia. Vous pouvez voir quel est l'utilisateur qui a fait une modification, ou si l'utilisateur était anonyme, quelle est l'adresse IP, et donc voir si c'est l'adresse IP qui provient du Parlement américain ou du Conseil fédéral. Ça arrive. Et donc, voilà, c'était une des premières expositions physiques de quelques titres, qui étaient un peu vraiment des objets trouvés assez aléatoires, assemblés ici. Un des projets, c'était une visualisation ou une concrétisation physique d'un projet Wikipédia. Ça, c'était mon premier workshop Wikipédia, qui a eu lieu à Genève pendant le Mapping Festival de 2010. J'avais été invité à contribuer à un projet quelconque au Mapping Festival, DJing. Et à mon sens, une des choses qui manquait au VJing, c'était une bonne définition sur Wikipédia. La page qui existait était tout à fait lamentable. Et donc, on a pu profiter de ce festival pour réunir 4 ou 5 experts internationaux, Ana Carvalho du Portugal, Raphaël Di Luzio des États-Unis et d'autres contributeurs, avec par exemple ici un visiteur diplomatique, un représentant de l'organisation Wikimedia Suisse, qui est venu et qui a assisté à la première modification du vrai article. Voilà quelques images de la caméra de surveillance que j'avais installée pour me documenter. Et donc, il y a un petit livre qui en a été tiré avec le contenu de l'article et avec évidemment tout le texte de la licence et la liste des contributeurs, ce qui permet déjà de remplir la moitié du livre.
C'est sympathique. C'était imprimé directement de Wiki ou...
Alors, j'avais utilisé effectivement le module d'exportation qui avait été développé par cette organisation allemande et qui, je crois, a été retiré entre-temps pour... les plateformes évoluent. J'ai entendu ensuite de la part d'un visiteur de la Leaf Conference qui venait du Media Lab de Budapest que ce Wikisprint de Genève les avait beaucoup inspirés pour un événement qu'ils ont organisé en 2011 lors de la célébration d'un anniversaire de Marshall McLuhan, qui apparemment est une personnalité importante en Hongrie. Et donc, suite à quoi il y a eu un sprint d'édition Wikipédia à Budapest. Un autre artiste qu'il faut mentionner, qui a inspiré certains de ses projets, c'est Michael Mansberg, une des personnes qui ont lancé l'éditathon Art et Féminisme, à l'origine en collaboration avec le MoMA de New York, qui a lieu maintenant partout dans le monde. Il a fait le projet un peu définitif. Je pense qu'après ça, maintenant, c'est un peu dur pour un artiste de faire quoi que ce soit d'autre avec, d'imprimer toute la Wikipédia intégralement dans sa version anglaise de 2015. Et donc ici c'est une version galerie avec théoriquement tous l'espace que prendraient tous les volumes. Je pense qu'il a triché un peu et que c'est des faux murs et qu'il en a juste imprimé quelques-uns.
Parce qu'en fait il y avait l'activiste qui disait ils ont fait une page wiki en disant s'il vous plaît Michael Mandiber, imprimez pas Wikipédia, c'est trop des arbres.
Oui.
Un mouvement contre, donc peut-être à raison, peut-être
c'était. Ça prend pas mal de temps aussi. Hein. La question évidemment c'est ensuite comment faire vraiment le processus pour que ça fonctionne, parce que on a pas un milliard de refaire. Le faire avec un article ça va. Mais... Il y a une vidéo qui documente la manière dont il y a un navigateur programmable, PhantomJS, un truc du style, qui tourne de manière autonome, qui télécharge, qui formate et qui fait l'upload sur la plateforme de Print on Demand. Automatiser l'exportation depuis Wikipédia. Programmant, on peut le faire. Automatiser la génération des livres, on peut aussi le faire. Mais ensuite, comment les mettre en ligne et comment les faire imprimer par l'imprimeur quand il y a des milliers et des milliers de livres. Et donc, en fait, c'est un navigateur programmé qui le fait. Et ça prend un certain temps pour chaque livre. Quoi. Il faut le temps d'upload. Donc, il y a une petite vidéo qui documente ça. Voilà pour Wikipédia. J'y reviendrai peut-être plus tard. Parlons aussi un petit peu de la typographie du web. C'est un autre aspect important pour moi. Et pendant assez longtemps, j'étais très très ignare et inculte en termes de fonte. J'utilisais les fontes que je trouvais, tout simplement. Et comme j'ai commencé à développer des choses sur le web est devenu mon médium principal vers l'an 2000. La typographie sur le web à cette époque-là, c'était quand même très très simple. Il fallait choisir entre ces quatre fontes typographiques. Éventuellement Times aussi, mais Times c'était quand même trop affreux pour oser l'utiliser. Et donc il y avait le choix entre ces polices, très très belles d'ailleurs. Les règles du jeu étaient vraiment très claires. C'était un espace délimité, très puriste. Donc c'était l'époque où on attendait avec impatience la fin d'Internet Explorer 6. C'était une phase très très sombre du web. On ne le savait pas, mais c'était une période de stagnation. Vers, en 2008 et 2010, il y a eu une sorte de renaissance dans le domaine de la typographie sur le web et donc dans le monde. Il se trouve que les différents navigateurs qui sont apparus ces années-là et qui ont commencé à battre en popularité Internet Explorer, ont implémenté en peu de temps le support de fonds typographiques autres que les quatre fonds principales. Donc vous pouviez, en tant que designeuse ou designer, intégrer des fonds divers et variés, en respectant quand même leur licence, mais techniquement c'était possible. Et donc aujourd'hui, avec ce genre de petites déclarations de code, on peut charger une fonte qu'on veut. Et donc ça a révolutionné l'expression typographique dans le web. Et ça a aussi forcé tous les gens qui faisaient du développement web de commencer à s'intéresser un peu plus à la typographie. Une des choses que ça a aussi, qui a aussi beaucoup gagné en importance, c'est le monde de la typographie sous licence libre, la typographie open source. Donc la typographie open source a existé depuis les débuts parce qu'il fallait toujours des fonts typographiques pour afficher du texte sur les ordinateurs. Donc vous avez des fonts sous licence libre des années 70. Vous avez tout l'univers étrange et un peu inquiétant de tech et la tech créée dans les années 70 par une sorte de gourou de l'informatique, mais qui était toujours utilisée que par des mathématiciens et des gens très austères dans l'académie. Et donc peu de graphistes s'y intéressaient, sauf Dexter Sinister, des gens comme ça. Et j'ai un peu découvert physiquement cet univers en ayant la chance d'aller dans un workshop dans cet endroit très pixelisé dans le sud de la France. C'est le village de l'URSS où se déroulent les rencontres de l'URSS. Il ne faut pas mélanger l'URSS et l'URSS, parce que l'URSS a mauvaise réputation parce qu'il y a eu un crime terrible qui s'y est produit dans les années 60 où un paysan a assassiné un touriste anglais. Et peut-être d'après Wikipédia, il s'agissait en fait d'une affaire d'espionnage et de recherche nucléaire. Mais bref, le festival s'appelle les rencontres de l'URSS, qui est une sorte de lieu de pèlerinage de la scène des typographes, gens de lettres et amateurs de calligraphie en France depuis les années 50. Très traditionnaliste pendant longtemps, mais apparemment il y a eu une révolution numérique aussi qui a fini par être acceptée là-bas. Et il se trouve que je suivais le fil RSS du blog de Dave Crossland qui a donné un workshop là-bas sur 3 jours de dessin de lettres et de création de fontes dans l'éditeur de fontes Open Source FontForge. Dave Crossland est un personnage qui a étudié le type design à l'université de Reading. Son travail de diplôme, c'était une fonte Open Source qui s'appelle Cantarelle. Il a écrit aussi la licence Open Font License, qui est un peu le Creative Commons pour les typographes, une licence écrite avec un langage légal qui convient aux besoins très particuliers de la profession typographique. Il a repris ou un peu coaché le projet FontForge pendant un certain nombre d'années, qui était le principal éditeur de fontes open source. Et en 2015, il a déclaré qu'il abandonnait FontForge en faveur de TrueFont, un autre nouvel éditeur de fontes open source, qui est apparemment très bien et multiplateforme. Et c'est ce qu'il faut utiliser si on veut éditer des fontes avec un logiciel libre. Et donc, je me suis rendu à ce workshop à l'URSS, où j'ai appris à faire un peu de dessin de fontes. Ici, c'est une tentative d'édition dans FontForge. Et j'ai appris notamment aussi que c'est assez facile de faire du copier-coller ou de changer les graisses à la volée sur une fonte typographique. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai corrigé. J'ai pas créé de fonte par entière, parce qu'il faudrait une deuxième vie pour ça. J'ai corrigé des fonts typographiques auxquelles il manquait par exemple la CDI, comme ici dans Carla, qui est la fonte que utilise le Center for Future Publishing sur son site internet. Donc si jamais vous avez des invités qui viennent, qui ont des caractères qui ne sont pas dedans, la CDI ou le C avec l'accent comme Gordon dans son nom de famille, il faut que vous utilisiez ma fork, une version améliorée, Carmilla, dans laquelle il y a eu aussi des contributions d'autres personnes. Donc c'était mon premier projet open source auquel il y a eu vraiment d'autres contributeurs qui ont ajouté beaucoup de choses. Et donc c'était un exercice assez gratifiant de lancer un projet et de voir qu'il y a des gens qui surgissent et qui rajoutent des choses. Par exemple, les caractères qui manquaient pour l'islandais. Suite à ce workshop, m'est venue l'idée du besoin de faire un livre de spécimens pour les fontes open source. L'univers des fontes open source était vraiment en train de s'agrandir à toute vitesse. Dave Crossland travaille depuis un certain temps pour Google, c'est lui qui a lancé le projet Google Fonts pour Google. Et donc les fontes open source vraiment existent en grand nombre et sont apparues de manière très riche pendant ces dernières années. En même temps, les livres de spécimens commençaient à disparaître et à ne plus être imprimés physiquement. par exemple Fontfont, qui imprimait cette espèce de bible avec des milliers de fontes dedans, qu'on pouvait consulter ici quand on était étudiant dans l'atelier de typo dans ce bâtiment. Et bien Fontfont a arrêté de produire la version imprimée pour différentes raisons, et ils ont opté pour une version iPad. Et donc bizarrement, quand le print on demand est apparu, il était, avec cette technologie, c'est vraiment logique de produire des livres de spécimens typographiques. Donc j'ai créé une version de démo juste pour montrer l'idée, non designée volontairement, parce que je me suis dit que c'est un projet qui doit être fait sous forme de workshop, avec la participation de beaucoup de gens et pour produire quelque chose de vraiment massif. Donc ça, c'était un objet démonstration pour pitcher les écoles pour faire le projet vrai. Et le projet vrai, j'ai eu la chance de le faire dans ce bâtiment en 2013, il y a 5 ans, avec des étudiants que vous connaissez peut-être, certains sont encore en fait des masters ou ce genre de choses. Ils étaient en première année de CV, et ils ont donc on a brainstormé, on a créé des modèles de spécimens pour en choisir un qui serait le spécimen de base du livre. Choisi un format, choisi un texte, il fallait un texte d'exemple. Donc ils ont choisi un roman d'anticipation du 19e siècle dans le domaine public pour qu'on puisse l'utiliser légalement, avec en plus la petite difficulté supplémentaire de vouloir mettre le texte entier dans le livre du début à la fin, et donc pas juste un texte de base qui se répète, mais un roman qu'on peut lire comme un roman du début à la fin, si on insiste absolument, même si c'est probablement un peu perturbant pour le regard. Donc c'est le livre qui est là, vous pouvez le feuilleter. C'est un livre qui est diffusé aussi par les plateformes comme Amazon, donc vous pouvez le commander et l'utiliser comme outil de travail, c'est assez pratique. La publication de ce livre, ça m'a permis de rencontrer une autre communauté des logiciels libres, la communauté du Libre Graphics Meeting, donc les rencontres du logiciel libre dans le domaine du graphisme, qui est un festival ou une conférence qui s'organise chaque année depuis 2006. En 2006, ça s'est fait pour la première fois à Lyon, en France, et c'était à l'origine l'équipe de l'éditeur d'images GIMP, qui faisait une conférence pour un peu rassembler les contributeurs. Ils ont eu l'idée en fait d'inviter aussi d'autres projets de logiciels dans le domaine du graphisme. Inkscape, qui est un projet de dessin vectoriel, un peu à l'Illustrator. Scribus, qui est un logiciel de mise en page, un peu comme InDesign ou QuarkXPress. Et quelques autres projets un peu moins connus. Ça s'est ensuite annualisé, il y a eu chaque année une édition à peu près. Et donc je suis allé à celle de 2013, qui avait lieu dans un endroit absolument incroyable, le Media Lab Prado à Madrid. Et qui était une conférence hyper dense de 4 jours avec des talks de 12 minutes qui se succédaient à un rythme effréné et qui partaient aussi bien dans des sujets super techniques où des gens présentaient leur logiciel, que sais-je, de gravure, de fonte en trait sur les cartes mères, où on utilise des fontes en trait, ou bien, qu'est-ce qu'il y avait de drôle, bon, des projets un peu à la start-up de jeunes espagnols qui lançait des choses Web 2.0 pour encourager la démocratie en ligne. Des projets comme la Open Document Liberation Front, un truc du style, où il y avait 3-4 quinquagénaires venus de Tchéquie qui travaillent pour une librairie particulière qui est dans LibreOffice. Vous voyez, OpenOffice, LibreOffice, un éditeur de documents un peu à la Word, et qui contient en fait plein de filtres d'importation pour des formats obsolètes comme ClarisWorks ou ce genre de choses. Et donc ils expliquaient comment ils font pour casser le code de ces anciens formats obsolètes qui sont documentés de nulle part, et comment ils font pour essayer de comprendre comment les afficher. Ils expliquaient ça assez bien, et c'était très drôle. Une occupation pour les longues nuits d'hiver. Et donc à cette occasion-là, j'ai décidé de produire aussi un livre, fait en un week-end, quelques semaines avant le festival, et qui est en fait un remake d'un projet de James Bridle, dont vous avez vu avant le projet Wikipédia, la guerre d'Irak, et qui était invité à un panel sur la publication post-numérique. Et donc, il avait fait un guide du festival South by Southwest avec la liste de tous les panels, avec une partie tirée du Lonely Planet, qu'il avait imprimé à une dizaine d'exemplaires, qu'il avait amené comme contribution au festival. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose, mais version LibreGraphics, donc version open source. C'était mon premier livre mis en page avec Scribus, mis en page avec des fontes typographiques, qui étaient faites par des gens qui étaient présents dans le festival et qui présentaient leur travail, avec des cartes, mais provenant pas de Lonely Planet, mais provenant évidemment de OpenStreetMap. C'était vraiment une belle manière d'entrer en contact avec plein de gens. Ça vous permet, pendant le voyage, de lire tout le descriptif de tous les panels du festival. Comme ça, vous connaissez tout le monde. Ça, c'était l'année d'après, à Leipzig, en 2014. Donc c'est un festival qui voyage, qui a lieu des fois au Canada, des fois en Amérique du Sud. Cette année, enfin en 2019, en avril, il aura lieu en Allemagne. Donc c'est un projet, c'est un endroit atteignable pour les étudiants ou les gens d'ici. Ok, il est temps de sauter sur un nouveau sujet. Ça va ? Un aspect que je trouve aussi très important, c'est comment archiver les projets numériques, évidemment. La mise en place des archives. Donc peut-être le fait de faire des sites web avec WordPress, ça contribue un peu à ça aussi, parce qu'on réfléchit comment... À la fois, on réfléchit au système de publication, mais comme c'est un système de publication, pas comme un livre, mais un site web, ça produit. Il faut aussi réfléchir où est-ce que vont les choses qui ont été produites et qui ne sont pas plus tout à fait courantes, mais qu'on a envie de garder quelque part. Donc, un engin de publication sur le web, c'est aussi une machine d'archivage. Et donc, je vous ai parlé aussi de Wikipédia. Toutes ces manières de coordonner ou de conserver ou de documenter un projet, ça m'a toujours beaucoup intéressé. En 2013, j'ai eu la chance avec Nicolas Nova de faire un voyage. Je crois qu'on était dans le même avion à l'aller, c'est ça ? Et on s'est retrouvés dans cet endroit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous pouvez deviner. Oui, exactement. Tout à fait. Donc c'est une ancienne église américaine reconvertie, avec la salle de culte qui tient lieu de salle de conférence, et avec les endroits où il y avait des statues, vous avez des serveurs. C'est les vrais serveurs de archive.org. Donc le Internet Archive, l'organisation qui complètement dingue, qui archive le web, et pas seulement le web, maintenant depuis 1995. Et donc ça, c'est des véritables serveurs, ça clignote, il y a des disques qui sont...
Ils n'ont pas que ça, hein.
Pardon ?
Ils n'ont pas que ça.
Non, il y en a aussi d'autres, mais ça prend pas beaucoup de place apparemment, hein. Ça tient en quelques containers. Hein. C'est... Ici, vous avez des petites céramiques qui sont faites par une artiste californienne. Et en fait, c'est les employés du Internet Archive. Après 3 ans d'ancienneté, ils ont une statue qui est faite à leur effigie. Et vous reconnaissez peut-être Aaron Swartz, un des martyrs de l'expression libre sur le web. Ça, c'est sous la salle de conférence dans l'église. C'est leur lieu de travail, leur open space. Donc ici, c'est le bureau d'une de mes idoles, reconnaissable avec son chapeau de pirate, qui est Jason Scott, un des archivistes enragés, animé par une passion sanguinaire de préservation de toutes les données qui disparaissent du web. C'est lui qui a mené la grande opération d'archivage de GeoCities à l'époque. Alors, elle fait partie des artistes qui ont ensuite valorisé les choses archivées. Elle a suivi le projet, elle le connaît, elle a aussi invité. Mais c'est lui qui menait l'opération d'archivage sauvage et illégal.
Le Rough Park, ils ont je ne sais pas combien de temps ils ont eu pour tout télécharger.
C'était... Oui, tout à fait, parce que quand un service du web annonce qu'il va disparaître, ça se passe souvent en assez peu de temps. Et ensuite, les services qui disparaissent, ils ne sont pas toujours coopératifs avec les personnes qui essayent de les archiver. Et donc, c'est le projet Archive Team, je crois que ça vous intéresse, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc, l'idée, c'est d'avoir une espèce de petite bande de gens qui participent à l'archivage autour du monde pour sauver un maximum de sites. Et dans ces sites de réseaux sociaux Web 2.0, souvent, il n'y a pas de carte qui dit ça, c'est toutes les adresses qui existent. Il faut essayer de trouver quelles sont les pages qui existent. Et ensuite, il y a des limites d'accès par adresse IP. Pour permettre d'aspirer, ils ont développé une espèce de machine virtuelle, VirtualBox, avec un truc qui tourne automatiquement. Et donc, vous utilisez votre ordinateur pour archiver un maximum de pages. Et en l'occurrence, dans l'exemple de GeoCities, qui appartenait à Yahoo à l'époque, ils bloquaient les gens qui essayaient d'aspirer trop de données. Ils étaient bloqués et ils ont découvert qu'il y avait un moyen de contourner ça. C'était en changeant l'identifiant du navigateur qui aspirait les données. Donc tout navigateur a un identifiant qui dit « je suis Internet Explorer, je suis Firefox ou je suis Chrome » ou bien qui dit par exemple « je suis Googlebot ». Et donc, dans leur script qui aspirait, ils ont mis un identifiant qui disait « not Googlebot », « je ne suis pas Googlebot ». Et en fait, la présence du mot Googlebot suffisait pour que Yahoo laisse tout passer. Et donc, ça, c'était le moyen de pouvoir aspirer des gigabytes. Donc, c'est la pratique de l'archivisme, d'activisme et de préoccupation pour les archives. Et donc, il y a un projet dont je suis assez content que j'ai fait dans ce domaine-là, qui consistait à créer une archive d'un élément du domaine public. Vous savez ce que c'est le domaine public. C'est une chose souvent très négligée. C'est quelque chose qui est souvent l'objet d'attaques légales et qui se rétrécit de temps en temps. Par exemple, quand les avocats de Walt Disney décident de prolonger la durée du copyright aux États-Unis. Et donc, en Suisse, en Europe, c'est quoi la durée du copyright ?
7 ans.
Pardon ? 7 ans. Oui, c'est ça. La convention de Berne, les États conventionnels. signataire de la convention de Berne. Ils pratiquent entre 50 et 70 ans de durée du copyright. Et je crois que ceux qui font le minimum, il y en a vraiment assez peu en Europe. Et donc 70 ans, c'est un peu une moyenne assez largement appliquée. Une des œuvres artistiques pour laquelle la question se pose, et sur laquelle j'étais tombé un peu par hasard, c'était l'héritage des Frères Lumière, qui consiste en 1423 petites séquences. Il y en a d'autres qui sont hors catalogue, mais c'est celles qui sont dans le catalogue, documentées, qui ont été commercialisées entre les années 1897 et 1904 à peu près. Pour une certaine raison, je cherchais des informations là-dessus en ligne et j'étais étonné de ne pas trouver vraiment de liste complète des films ou de descriptif des films. En fait, le seul moyen de les avoir, c'était d'aller emprunter un bouquin dans une bibliothèque universitaire qui contenait tout le listing, mais ce livre, il était déjà épuisé, vous pouviez plus l'acheter. Et vers 2013, quand je me suis intéressé à l'affaire en premier, on trouvait aussi aucune version film officielle, vidéo, DVD, de ces films. Donc par exemple, une recherche Lumière sur les internets me donnait différents imports de choses un peu étranges en zone, en VHS importée des États-Unis, actuellement indisponible. Ça, c'était une des principales sources, un DVD édité par un truc qui s'appelle Kino Films aux États-Unis, zone 1, NTSC, d'occasion pour 129 €, qui contenait, d'après ce que j'ai... Ici, on va pas vraiment quel est le contenu, mais apparemment, c'est 365 films, probablement les fameux 365 films qui avaient été diffusés par la télévision française pendant l'année Lumière, en 1995. Et donc, il y avait eu à cette époque un grand effort de restauration financé par le département de la culture en France. Et une des chaînes de télévision publique avait diffusé un film par jour, donc 365 films. Il y en a 365 sur ce DVD, et ces 365 étaient disponibles en version 240p sur certains comptes YouTube. Mais donc, c'était vraiment difficile de les obtenir. Chose intéressante, ce livre, il était accompagné d'un CD-ROM. Et sur ce CD-ROM, il y avait une application Director, lisible sur Windows 95 ou macOS 7 à 9. Et donc, j'ai une petite application, je crois que j'ai quelques... Ah non, j'ai pas mis les captures d'écran. Mais c'était possible aussi d'extraire vaguement des fichiers textes qui contenaient ce genre de choses, donc du descriptif avec un peu de code entre deux. Étant à ce moment-là habitué à faire des sites WordPress pour gérer des bases de données de contenu, je me suis dit, bon, on va extraire la liste des films de ce DVD pour faire une version accessible sur le web. J'ai produit un fichier CSV, une sorte de grand tableau Excel, avec la liste des films, avec les métadonnées qui étaient donc les thématiques, les acteurs identifiés, les sujets identifiés, donc les données qui étaient utilisées par ce CD-ROM. Depuis, il y a eu la possibilité d'avoir accès à des versions haute résolution. En 2015, l'Institut Lumière a sorti un Blu-ray magnifique qui contient une partie des films, 120 films. Donc c'est une petite partie des 1400 qui existent, mais c'est déjà ça. Ça permet de voir aussi qu'ils sont vraiment magnifiques. J'en ai fait aussi une espèce de workshop pour le développement du design du site. J'ai fait travailler des élèves que j'ai eu à disposition pendant un séminaire à l'école de La Chaux-de-Fonds. Donc c'est eux qui ont fait par exemple le choix de la typographie, qui est une fonte créée par un studio de création de fonte suisse, qui est une fonte inspirée des Realitype, voilà, qui est une fonte dérivée des sous-titres du film, des sous-titres gravés dans les pellicules. Un autre dernier exemple de cette activité-là, bon, c'est une activité que je considère comme assez secondaire, donc je ne suis pas prêt à y investir beaucoup de temps, et surtout pas être financé pour le faire, ça serait très ennuyeux. Mais c'est une activité qui accompagne des projets et qui sert ensuite de ressource à d'autres projets ou à d'autres personnes. Donc par exemple, en faisant le projet Wikipédia autour de l'ERACOM, on a passé pas mal de temps à sortir des bouquins des années 60 et 70 des bibliothèques, à les scanner ou à prendre des photos. Mais c'était des choses qu'on ne peut pas mettre sur Wikipédia parce que copyright, domaine public, et problème de ce genre. Et donc c'est un peu dommage de les scanner, de les avoir, mais pas de les publier nulle part. Donc j'ai créé en fait une sorte de petit blog, un site de documentation un peu chaotique, qui n'est pas un projet de recherche en soi, mais qui est ma plateforme pour mettre les choses qui dérivent des activités de recherche Wikipédia, par exemple, et qui ne sont pas publiables telles quelles parce que sous copyright, mais qui sont intéressantes et qui méritent d'être mises à disposition. Donc ça, c'était vraiment des choses trouvées en faisant des recherches autour de cet historique du design suisse des années 60 et des écoles de design en Suisse. Ouais, je vais finir assez rapidement. Je vais peut-être sauter 2-3 projets. Vous pouvez trouver la documentation en ligne. Donc ça, c'est un livre récent les manifestes de l'Internet, les manifestes du web, le titre du tout. Donc, voilà. Pour moi, l'occasion de réaliser ce genre de livre, c'est souvent quand j'ai l'occasion de faire un workshop ou quand j'ai l'occasion de faire une présentation. C'est le genre d'événement qui donne un peu un espace-temps disponible pour produire un projet, vu que c'est pas mon activité économique principale. Et donc, étant invité à faire un workshop de quelques jours dans un festival Fahrenheit en Italie, j'en ai profité pour donner la possibilité à des gens de faire leurs projets comme des projets de publication iPad ou de livres do it yourself. Et j'en ai profité pour faire ce projet qui me trottait un peu dans la tête, qui est la compilation de manifestes du web. Ici, une des contributrices, Olia Yalina, que Hervé et Gordon avaient invité, qui a un texte à elle dans ce livre. Ça, c'est la version actuelle. Un autre projet que j'ai fait entre-temps aussi, c'est le plus récent. C'est un livre qui est une compilation d'interviews. J'avais fait l'expérience à deux, trois reprises d'avoir publié des livres avec des contenus trouvés sur le web que j'estimais intéressants. Mais finalement, il y avait des gens qui étaient des auteurs qui ne voulaient pas que ce soit publié sous forme de livre. En réaction, je me suis dit, bon, ok, je vais faire pour une fois un livre avec des contenus qui ne sont pas juste trouvés ou volés, ou copy-paste, mais qui sont générés avec ma contribution personnelle. Et donc, j'ai fait une collection de retranscriptions, soit de conférences que j'ai données, comme ceci, ça pourrait être retranscrit, et des interviews que j'ai faites, des fois un peu à l'improviste, dans un train, en bavardant avec Daniel Thibault, des choses comme ça, qui sont donc retranscrites et transformées en livres, avec la technologie que j'ai un peu Arte Povera du livre, qui est d'utiliser Pandoc et la conversion à partir de fichiers Markdown via un modèle LaTeX avec l'outil en ligne de commande Pandoc. Juan connaît très bien, si vous avez des questions,
vous pouvez aussi.
Voilà. Et donc ça limite un peu les capacités d'expression graphique, mais ça permet de faire des choses vraiment très rapidement. Et donc, étant donné que j'étais invité ici, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de lancer vraiment un projet que j'ai en tête aussi depuis un moment, qui est un projet de faire des readers, des retranscriptions, un peu comme ces interviews, à partir de contenus sous des licences libres, parce que comme ça, on est un peu blindé contre les... On a l'espoir que personne ne va nous demander de ne pas le publier. C'est une invitation à faire des choses avec. L'idée, c'est de prendre des conférences, notamment des conférences du CCC. Donc vous connaissez le CCC. Il y a celui de la HED, mais il y a aussi le CCC en Allemagne, le Chaos Computer Congress, qui est une des immenses conférences de hackers qui se passe en Europe, qui attire des milliers de personnes. J'avais été frappé par celle de 2013. Enfin, je ne me suis jamais rendu là-bas encore. Il faut être très vigilant pour prendre les billets au bon moment. Mais je pense que c'est un événement intéressant. Et pour des ateliers comme vous, je pense que ça peut être aussi un événement à faire vivre à vos élèves. Mais donc, bref, c'est des conférences. C'est aussi des installations incroyables comme un système de communication par tuyaux et pression, qui pompe à pression, pour envoyer des messages à travers le centre de conférence. C'est des archives vidéo extrêmement bien faites. Je pense que c'est une des conférences au monde qui a l'équipe de documentation média la plus balèze. Il y a une équipe qui a vraiment mis au point tout un système de streaming, d'enregistrement multi-caméra et de publication. En 2013, j'ai été frappé par la présence de pas mal de talks, de conférences autour de sujets artistiques, nouveaux médias, enfin, entre activisme et projets artistiques. Et donc depuis, en tout cas 2013, il y a régulièrement des artistes qui osent aller présenter leurs projets devant un public de hackers. Des gens comme Rosa Menkman, Raquel Myers, qui présente un projet de télétexte, James Bridle, qu'on ne présente plus. Bon. Différents artistes qui travaillent à cette intersection des arts numériques qui m'intéressent. Et des conférences intéressantes qui sont systématiquement publiées sous la licence Creative Commons BY. Donc, qui permet toute réutilisation à partir du moment que vous créditez les gens. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire une sélection de ces conférences, de les transformer en livres, de les faire retranscrire, soit de les retranscrire soi-même, ça peut être une activité assez intéressante. La retranscription, d'ailleurs, c'est vraiment aussi un champ artistique en soi, comme le montre l'Américain là, comment il s'appelle ?
Khaled Goldsmith.
Je ne sais pas si vous connaissez son livre, où il a retranscrit... Les Seven American Disasters, où il a retranscrit les émissions radio qui suivaient diverses catastrophes, comme l'assassinat de John Lennon, les Twin Towers.
La météo aussi.
Il y a aussi des services de retranscription assez facile d'utilisation et abordable, que j'ai utilisé en fait quand j'avais eu l'idée du projet, j'ai lancé la transcription de 3 de ces conférences. Ensuite, il n'y a juste pas eu l'occasion de les faire, donc c'était un peu un acte manqué. C'est peut-être l'occasion de relancer ce projet et de trouver des gens pour y collaborer. Donc l'idée, c'est de lancer ça sur un mode assez collaboratif. Donc différentes personnes qui choisissent leur conférence, qui font la retranscription. On se coordonne pour avoir un design commun. Ici, quelques exemples de design commun qui sont assez sympathiques, qui pourraient être des inspirations. Donc ici, des livres de Trauma Vin, qui avaient généré des livres sur diffusés en print on demand, et qui s'étaient fait bloquer parce qu'ils avaient trop de comptes à la fois avec les mêmes adresses IP.
Le contenu était aussi, c'était des commentaires de YouTube sur Justin Bieber et SpongeBob SquarePants.
Oui.
C'est assez non-signifiant.
C'est intéressant.
Très intéressant.
Ou bien il y a des gens comme Nicolas Nova aussi qui ont des fois ce genre d'idées. Donc ça c'est quelques pages de ton livre Databot, où tu présentes une possible maison d'édition générant des livres algorithmiques.
Il faut payer un peu plus cher s'il y a des fantômes et des loups.
Oui. Et bref, donc ce genre de design, c'est assez ce que je vois un peu dans mon idée pour ces Digital Art Readers. Voilà, c'est la fin de la présentation. Ah oui, on a réussi à le faire en après une heure. Merci pour votre attention. C'est le moment de poser bien sûr des questions. Ou de venir voir certains des livres que vous commentez, ou alors de lancer l'appareil là, ton interrogateur numérique.
Bon, mais on a... merci beaucoup.
Merci. Allez. Merci.